19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 24 octobre 2014, en direct de Washington, Morgane Guiriec et Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, premier cas d'Ebola au Mali, une petite fille de 2 ans qui se trouve actuellement à Kaye.
Nous avons identifié les premiers contacts de la malade. Il s'agit maintenant pour toute personne qui aurait eu connaissance éventuellement d'une possibilité de contact, de signaler ce contact-là.
Le Tchad persiste et signe. L'accord entre Boko Haram et le Nigeria tient encore la route.
Au Burkina Faso, l'opposition parle de coup d'État constitutionnel. Mais pour le gouvernement, la réforme de la constitution est totalement légale.
Est-ce que ça a un sens coup d'État constitutionnel? Qu'est-ce que ça veut dire? Soit c'est un coup d'État, soit ça ne l'est pas. Ce n'est pas une question de vie, de l'esprit. Nous, on ne peut pas suivre cela. Une chose est sûre, c'est que l'approche du gouvernement répond à une légalité constitutionnelle sans faille.
Un attentat dans le nord du Sinaï a tué 26 soldats égyptiens.
Les Kurdes unissent leurs forces contre l'État islamique en Syrie.
Et comme toujours en fin d'émission, nos pages sport et musique. Pour l'instant, le journal.
Le Tchad affirme que les pourparlers entre le Nigeria et le groupe islamiste Boko Haram se poursuivront. N'Djamena soutient notamment que la promesse de libération de plus de 200 lycéennes enlevées à Chibok sera tenue, malgré la rupture apparente d'un cessez-le-feu. Jean-Roger Billon.
Le Tchad est impliqué dans les négociations entre le Nigeria et Boko Haram, d'après Moussa Mahamat Dago, le secrétaire général du ministère tchadien des Affaires étrangères. Le Nigeria et Boko Haram se sont verbalement mis d'accord sur une série de points, dont la libération des élèves et des combattants du groupe islamiste emprisonnés. À l'agence de presse Reuters, le responsable tchadien a indiqué que les parties n'ont pas encore déterminé les noms et le nombre de combattants de Boko Haram à élargir, mais il affirme que les filles devraient être bientôt libérées, même si la date et le lieu n'ont pas été précisés. Moussa Mahamat Dago a aussi laissé entendre que certaines factions de Boko Haram refusaient de se conformer à l'accord avec le Nigeria. Denladi Amadou, qui se présente comme le secrétaire général de Boko Haram, a déclaré hier à la VOA que les officiels nigérians et ceux de Boko Haram doivent se réunir à nouveau lundi à N'Djamena, la capitale tchadienne, dans une rencontre placée sous les auspices du président Idriss Déby Itno.
Et nous restons au Nigeria. La sœur de la ministre du pétrole a été enlevée à Port Harcourt, plaque tournante de l'industrie pétrolière du delta du Niger. C'est ce qu'annonce un porte-parole de la police cité par l'agence France Presse. Ozio Agama aurait été ravie mardi soir alors qu'elle entrait dans sa voiture. La police dit n'avoir pas été informée d'une demande de rançon. Il est cependant important de noter que les enlèvements contre rançon visant les responsables nigérians sont fréquents dans la région.
Et puis lutte contre le terrorisme dans le Sahel, la France a commencé à renforcer son action dans le nord du Mali pour contrer la résurgence des groupes djihadistes. C'est ce qu'a fait savoir Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense en visite à Dakar. Ces groupes tentent de revenir sur la défaite que les forces françaises leur ont infligée, estime Le Drian, en référence à l'opération Serval lancée en janvier 2013. En plus du nord Mali, la France entend mener des opérations dans le nord du Niger et du Tchad. Le ministre français de la Défense devait ensuite se rendre au Mali dans l'après-midi.
La Côte d'Ivoire a lancé une chasse à l'homme pour retrouver un agent de santé guinéen potentiellement infecté par le virus Ebola au moment où un premier cas a été enregistré au Mali. Un survol des derniers événements liés à la maladie avec Jacques Aristide.
À Bamako, les autorités ont vite rassuré les personnes entrées en contact avec une fillette de 2 ans, testée positive au virus Ebola, ont été immédiatement identifiées et placées en quarantaine. L'enfant, dont l'état de santé s'améliore, d'après le ministère malien de la Santé, est venu de Kissidougou, en Guinée, et s'est présenté dans un hôpital de Kaye, au Mali. Inquiétude également en Côte d'Ivoire, qui est à la recherche d'un aide-soignant, venu lui aussi de la Guinée voisine, mais de manière clandestine. En croire l'Institut ivoirien d'hygiène publique, le Guinéen, qui habite dans l'un des principaux foyers de l'épidémie d'Ebola dans son pays d'origine, a pris peur après avoir appris qu'une personne venue le voir dans son cabinet pour des soins était décédée. Autre cas d'Ebola lié à la Guinée, celui d'un jeune médecin américain de 33 ans qui est actuellement traité dans un hôpital de New York. Greg Spencer est récemment revenu de Guinée où il a travaillé pour Médecins Sans Frontières. Le maire de la plus grande ville américaine, Bill de Blasio, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. Sur le front de la recherche, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué ce vendredi que 5 nouveaux vaccins seraient testés en mars 2015.
Attentat à la voiture piégée dans le nord de la péninsule du Sinaï en Égypte. L'attaque qui visait un barrage de l'armée a causé la mort de 26 soldats selon les autorités citées par l'AFP. On compte aussi 26 blessés. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières visant les forces de sécurité depuis que l'armée égyptienne a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Des groupes djihadistes disent mener ces attentats en représailles à la sanglante répression qui s'est abattue sur le pro-Morsi depuis plus d'un an.
En Tunisie, 6 personnes ont été tuées. La police a finalement lancé l'assaut d'une maison auprès de Tunis où était retranché un groupe armé. Le pays craint des attaques terroristes à l'approche des législatives de dimanche. Idriss Fall.
5 femmes et un homme ont été tués selon Mohamed Ali Haroui, porte-parole du ministère de l'Intérieur. La police a pris d'assaut la maison où était retranché un groupe armé qualifié de terroriste dans la banlieue de Tunis. Un gendarme a été tué pendant l'opération. Depuis 2 ans, les attaques attribuées aux extrémistes musulmans ont fait des dizaines de morts parmi les forces de l'ordre. Selon le ministre de l'Intérieur, entre 2000 et 3000 Tunisiens combattent dans les rangs de groupes djihadistes, dont l'État islamique en Syrie et en Irak. Le pays organise des élections législatives dimanche et la présidentielle le 23 novembre. Le gouvernement a prévu de déployer des dizaines de milliers de soldats pour sécuriser les bureaux de vote. La campagne électorale pour les législatives se termine ce soir. Les Tunisiens vivant à l'étranger ont déjà commencé le vote aujourd'hui.
Et élections présidentielles et législatives au Botswana ce vendredi. Et Camille Grodidier nous en parle davantage.
Quelques 824 000 électeurs étaient attendus aux urnes pour ce scrutin qui vise à élire 57 députés de l'Assemblée nationale et 490 députés du Conseil pour les gouvernements locaux. On s'attend à ce que le président sortant, Yann Kama, soit réélu, même si sa majorité s'effrite par rapport à la dernière présidentielle. Il est le candidat du Parti démocratique du Botswana au pouvoir depuis l'indépendance en 1966. Son principal adversaire représente une coalition de différentes formations, dite le parapluie pour le changement démocratique. Le vote était suivi par des observateurs de la Communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, de l'Union africaine et de l'Union européenne. Le Botswana, qui compte 2 millions d'habitants, est connu comme l'un des pays les plus stables d'Afrique, même si le taux de chômage chiffré à environ 20% inquiète, de même que le ralentissement de l'économie.
Au Rwanda, l'autorité de régulation des médias a suspendu les émissions en langue Kinyarwanda de la BBC suite à la diffusion par cette radio du documentaire « L'histoire jamais contée au Rwanda ». Des parlementaires avaient appelé à suspendre la licence FM de la BBC. Le président Paul Kagame avait même accusé la BBC de négation du génocide des Tutsis.
Au Niger, les autorités de Magaria, une localité du sud du pays proche du Nigeria, ont ordonné la fermeture d'une radio privée pour avoir diffusé un prêche faisant l'apologie du groupe islamiste armé Boko Haram. C'est ce qu'indique l'agence France Presse.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, un tireur a ouvert le feu aujourd'hui dans un lycée près de Seattle, au nord-ouest du pays, faisant au moins 6 blessés avant de se tuer avec son arme, selon plusieurs médias américains. D'après le Seattle Times, qui cite des sources policières, un étudiant a ouvert le feu dans le lycée de Marysville-Pilchuck avant de décéder d'une blessure qu'il s'est infligée avec son arme.
Les Kurdes unissent leurs forces contre l'État islamique en Syrie. Selon le président turc, les Kurdes syriens, les combattants de l'armée syrienne libre ont décidé de joindre leurs forces pour défendre la ville de Kobané contre les militants de l'État islamique. Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les forces de la milice kurde sont en train de finaliser la façon dont le groupe rebelle modéré, soutenu par l'Occident, fera parvenir 1300 soldats à la frontière nord de la Syrie avec la Turquie.
Un homme armé d'une hache a été tué hier à New York. Il avait attaqué un groupe de policiers et blessé grièvement l'un d'entre eux. Les précisions de Lionel Gaïma.
Ces policiers, qui font partie d'une récente promotion de l'école de police, posaient une photo quand un homme encagoulé s'est jeté sur eux avec sa hache. Un agent a été blessé au bras et un autre à la tête avant que les autres policiers n'ouvrent le feu et tuent l'assaillant. Cet incident s'est produit un jour après la mort à Ottawa d'un soldat canadien abattu apparemment par un homme influencé par la propagande djihadiste. Ce dernier a été tué dans un échange de tirs par un officiel du Parlement canadien quand il s'est rué dans le bâtiment. Le commissaire de police de New York, William Bratton, a dit qu'on ne sait pas au juste ce qui a poussé l'assaillant d'hier à s'en prendre aux policiers avec sa hache. Mais selon le Centre américain de surveillance des sites islamistes cité par l'AFP, l'assaillant, un Américain identifié dans les médias comme étant Zale Thompson, avait estimé dans une vidéo publiée le mois dernier sur un site pro-État islamique, je cite, que le djihad est une réponse justifiable à l'oppression des sionistes et des croisés. Fin de citation.
Je n'ai aucune explication sur ce que mon fils a fait. Déclaration de la mère de Michael Ziaf Bido, l'homme qui a tué, selon la police, un soldat à Ottawa mercredi dernier avant de tirer des coups de feu au Parlement. Suzanne Bido a déclaré à la Society Press qu'une partie d'elle veut haïr son fils, âgé de 32 ans. Dans un email, elle a écrit « Je suis en colère contre notre fils ».
Et Kiev ne veut pas régler le conflit dans l'est de l'Ukraine par le dialogue, déclaration du président russe Vladimir Poutine à l'issue d'un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel. Par ailleurs, Poutine a accusé les États-Unis de mettre en danger la sécurité mondiale en bouleversant l'équilibre du système international.
Le pape François a invité plus d'une centaine de représentants de mouvements populaires la semaine prochaine pour un colloque de 3 jours inédit au Vatican sur la mondialisation et l'exclusion. Du 27 au 29 octobre, des délégués de mouvements de travailleurs précaires, de migrants, de paysans sans terre, de peuples indigènes, de marginaux venus du monde entier participeront à ce colloque. Le président bolivien Evo Morales prendra part à la rencontre. Voilà pour le journal. Au micro, Bagassi Koura et Morgane Diriek en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. On enchaîne sur la partie magazine de notre édition. Premier cas confirmé d'Ebola au Mali. La victime, une fillette de 2 ans venue de Guinée, se trouve actuellement à Kaye, la première région administrative du Mali.
Et le gouvernement qui dit prendre des dispositions afin de la traiter appelle au calme et demande aux populations de ne pas paniquer. Mais les dispositifs sanitaires et sécuritaires sont-ils suffisants à en croire l'association des jeunes élus qui viennent de boucler une tournée à l'intérieur du Mali? La réponse est non. Les détails avec Kassim Traoré, notre correspondant sur place.
C'est une petite fille de 2 ans venue de la Guinée-Conakry qui porte le premier cas de virus Ebola au Mali. La petite fille se trouve avec sa grand-mère à l'hôpital régional de Kaye. Ousmane Koné, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique du Mali.
L'état de la fille, comme le service nous le rapporte, s'améliore grâce à une prise en charge précoce. Et je dois rappeler que la fièvre hémorragique à virus Ebola n'est pas mortelle dans tous les cas, principalement lorsque la prise en charge est précoce. Ce qui a été le cas concernant cette fillette. Nous avons identifié les premiers contacts de la malade. Il s'agit maintenant pour toute personne qui aurait eu connaissance éventuellement d'une possibilité de contact que nous n'aurons pas repéré, de signaler ce contact-là. Et s'il s'agit de la personne, de se signaler elle-même pour être suivie.
L'enregistrement de ce premier cas n'est point une surprise pour l'Association des jeunes élus du Mali. L'AGM, qui vient de parcourir l'intérieur du pays, a fait un constat amer par rapport à la lutte contre Ebola au Mali. Sori Ibrahim Traoré, président de l'association des jeunes élus du Mali.
Il y a beaucoup d'insuffisances dans les postes de contrôle que nous avons pu faire. Je vous donne l'exemple. Au niveau du Sélingué, où à travers vraiment Niani, on a une grande frontière avec la Guinée-Conakry, il n'y a que 3 postes qui fonctionnent aujourd'hui, contrairement à 5 annoncés. Les zones d'orpaillage, il n'y a aucun site de contrôle là-bas. Très peu de dispositions prises dans ce sens.
Depuis la déclaration du premier cas de virus enregistré, les autorités maliennes multiplient les actions. Docteur Sungalo Daou, du service infectiologie de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako.
Il faudrait que la famille se tienne à l'écart, qu'il ne manipule pas les sécrétions du malade. Je vais parler de la salive, je vais parler des sels, je vais parler des morves et tout ce qui sort du corps du malade. La famille, les proches, tout ce qui vient les rendre visite, il ne doit pas les toucher, y compris les objets et habits souillés par ces sécrétions.
L'association des jeunes élus du Mali pense que le gouvernement doit faire plus d'efforts.
Nous demandons à nos populations de se préparer, de se mobiliser pour affronter vraiment la maladie à virus Ebola. En quoi faisant en évitant toutes nos habitudes sociales et culturelles qui peuvent faciliter vraiment la propagation de ce virus. Il faut aussi qu'on soit culturellement prêt parce que les décès de suite de la maladie à virus Ebola, et les morts ne sont plus à la disposition de la famille. Et nous demandons aux plus hautes autorités de renforcer les dispositifs sécuritaires. Autour de Bamako et dans toutes nos villes, il n'y a pas que les villes qui sont frontalières avec la Guinée, mais c'est tout le territoire national qui doit être sécurisé.
Pour le moment, le gouvernement malien conseille aux populations d'éviter les déplacements non nécessaires vers les zones d'épidémie et de respecter les messages d'hygiène et de sécurité édictés en la matière. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Par ailleurs, aux États-Unis, un quatrième cas d'Ebola est confirmé. Et cette fois-ci, c'est la mégalopole de New York avec près de 8,5 millions d'habitants qui est touchée, Morgan.
Malgré les discours rassurants des autorités, beaucoup d'Américains redoutent une propagation plus grande du virus. Reportage ici à Washington de Nicolas Pinault.
Dans la capitale fédérale, la bonne nouvelle est d'abord venue ce matin des instituts américains de la santé. Nina Pham, l'une des deux infirmières du Texas infectée par le virus Ebola, est déclarée guérie. Elle devrait quitter la clinique dans les prochains jours. Depuis le début de l'épidémie, qui a fait des milliers de morts en Afrique de l'Ouest, seuls 4 cas ont été recensés sur le territoire américain. C'est peu et pas de quoi justifier les craintes actuelles, estime Drew Martin, originaire de Kansas City.
Ce virus peut être très préoccupant, mais je crois que nous prenons les mesures appropriées. On devrait plus s'inquiéter des autres maladies comme la grippe. Peut-être qu'on utilise trop de ressources pour l'Ebola étant donné le faible impact, mais peuvent-ils vraiment faire autrement?
Les autorités américaines demandent à leurs concitoyens de ne pas céder à la panique. Difficile pourtant de ne pas s'inquiéter, estime Chris Checker, originaire de Dallas. Il pense que l'Amérique n'était pas assez préparée pour faire face à l'Ebola. Il demande des mesures plus draconiennes pour éviter de nouveaux cas.
Je ne crois pas qu'ils devraient autoriser les gens à revenir d'Afrique avant la fin de la période d'incubation de 21 jours. Je suis un professeur de sciences. Et je sais que ça peut vite se propager et devenir hors de contrôle. Des millions de personnes pourraient mourir.
Cette épidémie d'Ebola a au moins permis d'éveiller les consciences face à ce virus qui a été découvert pour la première fois en 1976 en République démocratique du Congo. C'est ainsi que la recherche scientifique pourrait mettre au point un vaccin dans les prochains mois. Écoutons Claudette Durocher, une touriste canadienne.
Peut-être que c'est une bonne chose. Ça a simplement ouvert les yeux des individus ici. Concernant ce qui se passe en Afrique, parce que jusqu'à maintenant, c'est un peu comme le sida. Ça se passait ailleurs, ça ne les touchait pas jusqu'à temps que ça arrive ici. Là, bizarrement, les gens vont commencer à chercher des remèdes, des médicaments. Tant que ça se passe en Afrique, on oublie ça, alors que là, ça va éveiller les consciences.
Pour rassurer les Américains, le président Barack Obama accueillera tout à l'heure à la Maison-Blanche Nina Pham, cette infirmière du Texas, désormais guérie. Nicolas Pinault, Washington, La Voix de l'Amérique.
L'actualité au Burkina Faso reste dominée par cette question de la modification programmée de la Constitution pour permettre à Blaise Compaoré de briguer un autre mandat en 2015.
Et l'opposition burkinabé a appelé ce vendredi la population à bloquer l'Assemblée nationale le 30 octobre afin d'empêcher les députés d'examiner le projet de loi en question. Et l'opposition parle d'un coup d'État constitutionnel. Eh bien, j'ai demandé à Alain-Édouard Traoré, il est le porte-parole du gouvernement, qu'est-ce qu'il pense d'une telle qualification?
Est-ce que ça
ça a un sens coup d'État constitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit c'est un coup d'État, soit ça ne l'est pas. Ce n'est pas une question de vie, de l'esprit. Nous, on ne peut pas suivre cela. Une chose est sûre, c'est que l'approche du gouvernement répond à une légalité constitutionnelle sans faille. Et j'insiste là-dessus, c'est d'une légalité constitutionnelle sans faille. Maintenant, quand on analyse ou qu'on l'appelle comme on veut, c'est le droit de tout un chacun.
Et là, la France rappelle que le Burkina Faso doit respecter la clause de l'Union africaine.
Oui, nous ne pensons pas être en porte-à-faux avec les clauses de l'Union africaine. Nous, nous sommes membres de l'Union africaine. À ce que je sache, la France n'est pas membre de l'Union africaine. Nous avons tenu compte de l'ensemble des règles internationales et nationales pour porter notre processus. Et comme je vous l'ai dit, ce qui compte le plus à nos yeux, c'est la constitution de Burkina Faso. Et la démarche et l'approche est d'une légalité constitutionnelle sans faille.
Mais depuis l'annonce du vote, il y a des manifestations à peu près chaque jour dans les rues de Ouagadougou et même de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville. Est-ce que cela vous inquiète?
Non, pas du tout. Je pense que nous sommes une démocratie, il y a des espaces de liberté. Et les uns et les autres essaient d'utiliser ces espaces de liberté pour se faire entendre. C'est leur droit. Et nous, on continue à mener les processus pour que cela correspondent à la légalité possible.
Alors, l'opposition parle de désobéissance civile et annonce même un blocus jeudi 30 octobre pour empêcher les députés d'avoir accès à l'hémicycle. Votre réaction là-dessus?
C'est le droit de l'opposition de se faire entendre, mais j'appelle simplement au respect strict de la loi, des textes et règlements en matière de liberté d'opinion et d'expression et de manifestation.
Mais beaucoup de gens pensent quand même que cette réforme vise à protéger l'intérêt d'une seule personne, le président du Faso.
Ce qui est important pour nous, c'est la légalité constitutionnelle de notre démarche. Nous sommes dans un état de droit. Tout état de droit a des règles. Et ce qui compte, c'est la primauté de ces règles. Tant que nos choix correspondent à la démarche légale, maintenant les opinions des uns et des autres, ils ont le droit d'exprimer, mais dans un cadre légal.
Voilà, c'était Alain-Édouard Traoré, porte-parole du gouvernement burkinabé, joint à Ouagadougou.
La Tunisie tient des élections législatives dimanche. 6 terroristes présumés ont été abattus aujourd'hui, non loin de Tunis.
Le gouvernement a prévu de déployer des dizaines de milliers de soldats pour sécuriser les bureaux de vote. La campagne électorale se termine ce soir. Le vote des Tunisiens à l'étranger a déjà commencé. Sur les enjeux du scrutin, Idriss Fall a joint notre confrère Mourad Selami du journal Le Quotidien à Tunis.
Pour les circonscriptions de l'étranger, on a déjà commencé aujourd'hui. Les Tunisiens de France, d'Italie, d'Allemagne, etc. Ils ont commencé déjà aujourd'hui et les élections se poursuivent 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain. Il y a 6 circonscriptions en tout à l'étranger. Ils concernent 18 sièges. Il y a 357 000 électeurs tunisiens à l'étranger. Il y a également 27 circonscriptions à l'intérieur du pays. Il y a 189 sièges à l'intérieur du pays pour lesquels 1280 listes se disputent ces élections et il y a en Tunisie 4 900 000 électeurs.
Est-ce que cette pléthore ne sera pas à l'avantage du parti Ennahda comme en 2011?
En 2011, Ennahda était l'unique parti structuré, l'unique parti en mesure de placer des élus sur toutes les circonscriptions, etc. Les autres partis étaient squelettiques. Aujourd'hui, Ennahda continue certes à être fort et bien structuré, mais il y a un parti concurrent qui s'appelle Nida Tounes. Donc, c'est vrai qu'Ennahda est avantagé même par ses anciennes structures, son expérience, ses visages gouvernementaux, etc. Mais il est vrai aussi qu'il apporte un handicap dans la mesure que la Tunisie a vécu plusieurs crises. Mais, en gros, Ennahda demeure un candidat très sérieux pour reconquérir la gouvernance en Tunisie, talonné, il est vrai, par le parti Nida Tounes.
Et qu'en est-il de la menace terroriste? Elle est bien présente.
C'est vrai, surtout aujourd'hui encore, il y a eu des incidents avec des terroristes parce qu'on a débusqué un groupe terroriste dans les environs de Tunis. 6 terroristes ont été abattus. Donc, il y a encore des gens sur le maquis à Kafrine, mais il y a aussi des terroristes nichés, des cellules dormantes un peu partout en Tunisie. C'est vrai que la menace terroriste plane, surtout que la proximité immédiate, c'est-à-dire la Libye, est encore très menaçante et sa situation est très précaire.
Notre confrère Mourad Selami du journal Le Quotidien à Tunis.
Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est l'heure des sports et cette fois-ci, c'est avec Timothée Donamay. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Bagassi.
Alors ce week-end, il y a du foot à Kinshasa, la fête du foot qui aura lieu à Tata Raphaël.
Eh oui Bagassi, un dispositif de sécurité spécial est prévu pour cette finale aller de la Ligue des Champions dimanche à Kinshasa, donc entre l'AS Vita Club et le RC Tif. Le nombre de spectateurs au stade Tata Raphaël a été limité à 29 000. Sur demande de la CAF et pour des raisons sécuritaires, le club hôte a décidé de limiter le nombre de billets à 29 000 pour ce stade Tata Raphaël qui est d'une capacité de 50 000 places. Une évacuation totale des abords de l'enceinte est prévue. Les autorités congolaises ont également interdit aux marchands ambulants de venir vendre au stade le jour du match.
Et le Français Paul Pogba, d'origine guinéenne, reste à Turin.
Tout à fait. La Juventus a mis au coffre Pogba, 21 ans, un des joueurs les plus convoités du monde, prolongé jusqu'en 2019 au terme d'un long feuilleton de négociations. Le milieu de terrain français, suivi par les grands du Real Madrid au Bayern Munich, en passant par le Paris Saint-Germain, a donc prolongé de 3 ans son contrat avec les Bianconeri. L'opération, il faut dire, Bagassi, est fructueuse pour le joueur élu meilleur jeune du Mondial 2014. Son salaire aurait triplé à 4,5 millions d'euros annuels, selon la presse italienne, après plus d'un an de négociations menées par ses agents Mino Raiola en tête.
Et un joueur africain prend clairement position pour un report de la CAN.
Il s'agit, Bagassi, de Vincent Enyema, qui se dit favorable à un report de l'épreuve. Le gardien nigérian de Lille craint les risques liés au virus Ebola. Alors que son pays, le Nigeria, se dit prêt à accueillir l'épreuve en cas de défection marocaine, Enyema préfère que la CAN 2015 soit reportée. Il a dit à l'issue d'un match d'Europa League entre Lille et Everton 0-0. Et c'est donc le score de parité dans ce match.
Voilà, et pour terminer en tennis, les Masters de Singapour.
Et oui, 48 heures après sa lourde défaite, depuis sa plus lourde depuis 1998, Serena Williams est rassurée, qualifiée pour les demi-finales. Elle va terminer l'année en numéro 1 mondial et peut s'employer à réaliser son triplé inédit pour elle dimanche au Masters de Singapour. Dans le groupe blanc, la Russe Maria Sharapova, battue lors de ses deux premiers matchs, quitte la compétition sur une victoire tout de même, 7-5, 6-7 et 6-2, devant la Polonaise Agnieszka Radwańska.
Voilà, c'était le journal de sport de Timothée Donamay.
On enchaîne sur la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Cet artiste est la figure de la nouvelle scène reggae ivoirienne hein, sur les traces du maître Alpha Blondy. Mais vous l'avez peut-être deviné, c'est bien sûr Tikenja Fakoly. Il est aussi un des porte-parole de la jeune génération de son pays face aux difficultés politiques. On l'écoute ce soir dans Alou Maye.
Son père l'envoie dans un autre village, Béléban, et c'est là qu'il découvre le reggae.
C'est ça, Morgane. Mais j'ajouterai aussi que Fakoly est issu d'une famille des griots, ces dépositaires de la tradition orale comptant histoires et légendes d'un peuple, d'un pays, mais aussi l'histoire des familles. L'art des griots étant intimement mêlé à la musique, hein, Tiken développe sa passion, mais ne la mettra pas à jour avant la mort de son père. Voilà Morgane, c'était Tikenja Fakoly dans Alou Maye.
Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Morgane.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show. Alou Maye. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yemi Obadjimi a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction.
Voilà, merci de nous avoir suivis et passez un excellent week-end. C'était au micro Bagassi Koura
et Morgane Guiriec.
À très bientôt. Suma woro borila, suma woro kanta.